Théologie en liberté. Bonjour à tous, Joëlle Baumann au micro et
Michel Bertrand.
Voilà, nous nous retrouvons, le pasteur Michel Bertrand, professeur de théologie, et moi-même pour une rencontre autour d'un thème qui est la relation souvent conflictuelle entre religion et politique. Alors, nous avons essayé de définir ce que nous entendions par religion, ce que nous entendions par le politique. Nous ne faisons pas de la politique. Nous avons décrit tout cela dans une première émission, vous pouvez la retrouver en podcast. Et tout cela nous amenait donc à une question, celle de la responsabilité des religions dans cette société. Nous disions que la religion refaisait un petit peu surface dans ce 21e siècle, et souvent, à nos dépens, se rapprochait d'un type de politique. Voilà, on a parlé des USA, Donald Trump et certaines églises. On a parlé de l'islam, évidemment, avec cette date fatidique du 11 septembre 2001, qui inaugure un petit peu notre 21e siècle. Et alors, quelle est la responsabilité des religions dans notre situation actuelle? Ne sont-elles pas toujours facteurs d'intolérance, Michel?
Oui, il faut se poser cette question. Hein. Ce qu'il confirme, c'est ce que nous voyons, ce que nous constatons, les horreurs du terrorisme, les dangers du fanatisme religieux, de l'intégrisme, du communautarisme. Ces réalités peuvent nourrir en effet le sentiment, à juste titre, que les religions seraient toujours vecteurs d'exclusion, de violence, d'oppression des consciences. Les situations de souffrance infligées au nom de Dieu, notamment aux femmes, se multiplient à l'échelle du monde. Et dans bien des conflits qui déchirent notre terre, nous en avons des exemples tragiques tous les jours, le religieux joue souvent comme un puissant ressort passionnel parce qu'il sert à légitimer puissamment la haine et la violence, même s'il n'en est pas toujours la seule cause, ni la cause première. Mais le religieux vient toujours donner une sorte de label d'absolu à cette cause.
Il faut alors se demander pourquoi les religions semblent toujours en danger d'intolérance.
Oui. Alors, je crois que ça, c'est vraiment des questions de fond. Pour employer un grand mot, c'est des questions anthropologiques. Pourquoi les religions semblent-elles toujours vecteurs de violence? Alors, on ne va pas répondre là maintenant à toutes ces questions, ça mériterait une émission entière, mais on peut s'interroger, est-ce parce qu'elles ont affaire avec les émotions d'abord, et les émotions les plus fortes, parfois les plus archaïques aussi, la peur, l'espoir, la vie, la mort, l'amour, la haine, le pur, l'impur? Est-ce parce qu'elles fondent leurs convictions dans l'absolu, se rappeler l'étymologie de absolu, dans l'absolu d'une vérité révélée ou d'un monde sacré, incontestable? Le philosophe Paul Ricoeur disait « C'est du fond même d'une conviction forte qu'il y a péril de violence. » Est-ce encore parce que les religions comportent une part importante d'émotionnel, échappant donc au travail de la raison? En tout cas, tout se passe comme si les religions, en quelque sorte, recelaient en germe et mêlées aux richesses incontestables dont on parlera, dont elles sont porteuses, mais contenaient toujours un péril de violence fait à l'autre, l'incroyant, le malcroyant, l'hérétique.
On disait souvent que les religions monothéistes étaient les plus portées à la violence, parce qu'elles ne supportent pas la concurrence. Si c'est monothéiste, chacun a un dieu. Mais on a vu aussi beaucoup d'intolérance dans la pratique de religions, par exemple orientales, l'hindouisme, et même en marge du bouddhisme. Il y a eu des moments de grande violence, c'est arrivé. Ce sont donc tous les croyants, de quelque famille religieuse que ce soit, qui doivent apprendre à se remettre en question.
Oui, ça, je crois qu'il y a un travail de réflexion critique que les religions ne doivent jamais cesser de faire, et aujourd'hui plus que jamais, qu'elles n'occultent pas ces questions et ces constats douloureux, ni qu'elles ne s'en exonèrent, parce qu'on peut le faire facilement, au motif que, bien sûr, ce sont là ce que Olivier Roy appelait des pathologies de la croyance, hein, pour en quelque sorte se dispenser d'y réfléchir. Parce que les pathologies, dit-on alors, n'ont rien à voir avec la foi et avec les convictions profondes. Alors, bien sûr qu'il faut faire la différence, bien sûr qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre les religions et leurs déviances. Et notamment en ce moment, il faut veiller à ce que les attentats des courants islamistes, des terroristes, certaines revendications communautaires, les processus de radicalisation ne viennent alimenter l'islamophobie. Mais en même temps, chaque religion doit s'interroger sur les extrémismes qu'elle risque de générer ou qu'elle a pu générer. C'est ce qu'avait, cette question qu'avait posée en 2016 après les attentats dans un livre qui s'appelait « Un silence religieux » Jean Birnbaum. Il rappelait que si les causes du fanatisme ne sont pas que religieuses, elles le sont aussi. Et il ajoutait « On se trompe donc quand on dit que les attentats n'ont rien à voir avec la religion ». Et il soulignait que souvent ça avait été fait par souci de ne pas faire d'amalgame avec l'islam et de ne pas tomber dans l'islamophobie. C'est ce qu'avaient fait les autorités françaises à l'époque, et il le montre, citation à l'appui. Et donc là, je le cite, lui, « Autant il est odieux de réduire l'islam à ses perversions sanglantes, autant il est absurde d'affirmer que ces perversions n'ont rien à voir avec la tradition musulmane et son devenir contemporain. »
Est-ce que c'est la tradition musulmane qu'il faut soupçonner ou bien la lecture qu'on peut en faire ? Je ne connais pas le courant, mais j'imagine que, comme la Bible, il est marqué par son époque. Il faut le contextualiser et non pas le prendre à la lettre. Le relire, pour revenir à la définition de la religion, le relier au contemporain. Ce que l'on appelle faire de l'herméneutique, pour employer un gros mot, déterminer tout à la fois le sens littéral du texte et son sens existentiel pour aujourd'hui. Qu'est-ce que cela peut nous dire, ce texte qui est écrit dans une histoire, une époque, qu'est-ce que ça peut me dire aujourd'hui ? Et non pas reproduire ces textes à la lettre.
Oui, tout à fait. Mais ce que vous dites montre bien qu'il ne faut pas faire d'amalgame, en effet, entre ces déviances fanatiques et puis les religions elles-mêmes. C'est bien parce qu'il y a au sein de l'islam différentes traditions et différentes manières d'aborder les textes, etc., qu'on ne saurait les confondre. Mais ne pas les confondre, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas, malgré tout, un lien, et qu'il faut s'interroger, et pas seulement, évidemment, ça ne concerne pas évidemment que l'islam. Et en la matière, c'est chaque religion, chaque religion, y compris la mienne, qui doit balayer devant sa porte. Ainsi, les chrétiens ne peuvent s'exonérer des horreurs de leurs propres intolérances, de leur propre fanatisme, hier comme aujourd'hui. Pas plus qu'ils ne peuvent se dédouaner et dédouaner les églises de leurs errements historiques comme les croisades, l'inquisition et tant d'autres persécutions au motif qu'elles n'auraient rien à voir avec leur foi. Je pense aussi à ce qui s'est passé en Afrique du Sud quand certaines églises protestantes qu'elles sont pratiquées l'apartheid et que la communion réformée mondiale a exclu ces églises. Parce qu'elle disait que, oui, elles appartenaient à la même tradition, puisqu'elles étaient dans la communion réformée. Mais elles en étaient exclues, parce qu'elles en étaient venues à des postures qui étaient, pour nous, incompatibles avec l'Évangile.
Comment alors ne pas séparer, sans pour autant les confondre, religion et politique ?
Oui, mais je crois que vous avez tout à fait raison. Il ne faut ni les séparer, ni totalement, ni les confondre totalement, mais il faut les articuler. Je crois qu'il y a là un travail pas facile à faire. Et je reviens là encore au texte de Jean Birnbaum. Il montre qu'il y a une imbrication inévitable de la religion et du politique. Et s'appuyant sur l'actualité, dans ce même livre, Un silence religieux, il montrait que, de façon d'ailleurs tout à fait convaincante, que si on est souvent si désarmé pour comprendre et donc s'affronter au phénomène de la violence religieuse, notamment dans les pays laïcs, c'est justement parce que dans ces pays laïcs, parfois, on refuse de voir la dimension politique de la religion, ni percevoir éventuellement la dimension religieuse du politique. Dans un contexte de modernité, la religion, de modernité et notamment dans une certaine forme de laïcisme ou d'anti-religieux, la religion est trop souvent perçue comme un reste de croyances archaïques appelées à disparaître, dont on ne perçoit vraiment pas la tâche qu'elle est susceptible de jouer dans la société. Donc on ne voit pas le lien que ça pourrait avoir avec le politique. Mais on ne perçoit pas non plus, du coup, le pouvoir de mobilisation du religieux. J'ai envie de dire, pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Alors, cette méconnaissance du religieux fait alors le jeu des extrémismes, qui, eux, savent parfaitement instrumentaliser la religion à des fins politiques. Ouais. Et précisément parce que la religion est un puissant vecteur de mobilisation. Un puissant parce qu'il joue beaucoup sur l'émotionnel. C'est pourquoi on ne sait plus faire une place aux religieux dans l'espace public, pour que le religieux et les religions puissent y vivre leur culte et leur foi dignement et au grand jour, quand on les contraint à l'obscurité, ce qui existe parfois, eh bien c'est alors qu'on les jette dans les bras de l'obscurantisme, de ceux qui savent très bien utiliser cela.
Il ne faut donc ni évacuer le religieux du champ politique, ni le confondre avec lui, mais il faut articuler les deux pour donner à chacun ses domaines et sa place. Voilà.
Je peux citer ici Jean Birnbaum, il dit « C'est en niant leur existence respective qu'on risque de sombrer dans une violente indistinction. Qui veut séparer le politique et le théologique doit d'abord mener à leur égard un travail de vigilante réarticulation. » Et c'est à cette articulation, je pense, que nous encourage d'ailleurs, en tout cas je me place là du point de vue chrétien, que nous encourage les éclairages bibliques et théologiques que l'on peut y trouver.
Alors oui, justement, qu'en est-il pour le chrétien on verra ça et on verra un peu comment les Écritures, comment la Bible peut nous aider à percevoir un peu ces deux courants et ce lien et cette proximité entre ces deux courants, religion et politique. Nous verrons ça après la pause, si vous voulez bien. Thank you. êtes sur Radio Alliance Plus, vous écoutez Théologie en Liberté. Nous sommes en entretien avec le pasteur Michel Bertrand et nous parlons de religion et politique, et du lien, des relations quelquefois souvent difficiles entre le religieux et le politique. Bon, maintenant nous voulons en venir à la Bible et voir ce que les Écritures peuvent nous dire sur cette relation entre ces deux courants.
Oui, nous sommes arrivés un peu à la conclusion provisoire que d'une certaine manière, religion et politique étaient toujours imbriqués, et qu'il fallait donc toujours clarifier ce lien, mais qu'en tout cas, il fallait ni les séparer complètement, ni les confondre, mais plutôt les articuler. Et je trouve intéressant de constater que c'est au fond ce que fait la Bible. La Bible est déjà traversée de deux courants qui sont apparemment contradictoires quant au rapport aux réalités du monde, notamment au pouvoir politique. Il y a d'abord le courant de la méfiance et donc de la vigilance des croyants, des chrétiens, à l'égard des puissances de ce monde. Car la foi libère le croyant de toute forme d'absolutisation, justement, des instances temporelles. Ainsi, quand Jésus dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ce verset a été beaucoup étudié, commenté, utilisé parfois un peu à tort et à travers. Il dit en tout cas pour notre propos une chose simple, c'est que précisément César n'est pas Dieu. Et quand César se fait Dieu, quand les humains ont tendance à sacraliser le pouvoir politique ou religieux, on a vu que c'était possible et dangereux, on trouve toujours dans la Bible une parole critique, une parole qui va interroger cette légitimité sacrée. On pense aux prophètes du Premier Testament qui régulièrement interpellaient vigoureusement les rois, parfois au risque de leur vie. On pense bien sûr à Jésus qui sera crucifié pour avoir défié les chefs religieux de son temps.
Oui, je vois bien ces prophètes parlant au nom de Dieu et contre, en confrontation très très souvent dans le Premier Testament, en confrontation au roi, aux représentants du pouvoir politique.
Donc il y a ce premier courant qui est, que j'appelle de défiance, de méfiance, voire d'interpellation critique à l'égard du pouvoir. Mais il y a aussi dans la Bible une reconnaissance de la légitimité des autorités, humaines, impliquant à leur égard respect et obéissance. Alors là, on peut citer de nombreux textes, mais je me limite à l'apôtre Paul, qui écrit dans l'Épître aux Romains « Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. » Et dans la première Épître à Timothée, l'apôtre ajoute à l'idée de respect celle de la prière pour les autorités, afin qu'elles accomplissent bien leur tâche, qui est de permettre à tous, donc ne l'oublions pas, en l'occurrence aussi aux chrétiens, de mener, et je cite l'Épître, une vie calme et paisible, en toute piété et dignité. Si on respecte les autorités politiques, c'est parce qu'elles garantissent justement la paix publique et donc la possibilité pour les religions de vivre leur foi au grand jour dignement.
Oui. Cette fameuse soumission aux autorités, on nous l'a ressortie quelques fois. Cela a créé dans l'histoire quelques malencontreuses situations. On a abusé de ce texte pour soumettre des peuples à leurs souverains, leurs dictateurs, que ce soit en Amérique latine ou, est-ce que je me trompe, si certains chrétiens en Allemagne dans les années 30 sont restés passifs face à la montée du nazisme, pas tous, heureusement, il y a eu une grande résistance chrétienne aussi, à cause d'une théologie des deux règnes de Luther, mal comprise. Encore une fois, la terre a l'autorité civile, et le ciel a l'autorité spirituelle.
Mais vous avez raison de dire que c'est une lecture mal comprise de la théologie des deux règnes, parce qu'on en fait une fausse lecture quand on considère que ce sont deux règnes séparés. Or, précisément, ce qu'explique Luther dans toute son œuvre, c'est que nous habitons toujours les deux à la fois. Et donc, il y a toujours pour nous cette tension. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ces deux courants que je viens de préciser, il ne faut jamais prendre l'un contre l'autre. il faut toujours les tenir ensemble, les tenir en tension. Et celui que nous venons d'évoquer, du respect des autorités, doit jamais être désarimé du premier, qui est la vigilance critique à l'égard du politique. Et c'est d'ailleurs, vous l'avez rappelé, ce qui se passera en Allemagne, puisque un nombre de chrétiens va se partir de l'Église officielle et entrer en résistance, y compris comme le pasteur Dietrich Bonhoeffer, en résistance armée contre la dictature. Mais d'autres textes montreraient que de toute façon, ni les croyants, ni les églises ne peuvent échapper aux politiques au sens large. Sens large et étymologique d'ailleurs. Et j'ai cité Jaurès tout à l'heure, je pensais à cette citation qui montre qu'il avait bien vu ce lien, justement, quand il écrivait à propos de Luther, « Celui qui renouvelle le ciel rénove la terre ». D'une certaine manière, lui, il avait bien compris la théologie des deux règnes. C'est parce que nous habitons les deux que chaque fois que nous donnons une autre vision du religieux, ben nous contribuons à donner une autre vision nouvelle de la terre.
De la terre.
Parce que la foi chrétienne est la foi en un Dieu qui, en Jésus-Christ, s'est incarné dans l'histoire, la parole qu'il adresse aux croyants concerne sa vie tout entière et l'être humain dans toutes ses dimensions. L'irruption de l'évangile dans des vies personnelles, l'événement de la foi et du salut ont forcément des conséquences dans le domaine public et même des effets politiques. Alors, on ne va pas lire ces textes maintenant, mais j'invite nos auditeurs, s'ils veulent entrer dans le corps, dans la chair des Écritures bibliques, de lire le texte de Actes 16, les versets 16 à 39. Je raconte juste brièvement l'histoire. C'est l'apôtre qui vient de guérir une jeune femme qui était possédée par un esprit qui lui donnait un pouvoir de divination. Et il nous est dit dans le texte que ce commerce rapportait gros à ses employeurs. Et elle court derrière l'apôtre lui demandant d'être libérée. L'apôtre la libère au nom de Jésus-Christ. C'est un acte, on ne peut plus spirituel. Mais immédiatement, ça va mettre à mal l'ordre économique de la petite bourgade.
Oui.
Donc les patrons rouspètent, parce que du coup, ils voient s'envoler l'appât de leurs gains. Hein. Et du coup, ils sont traînés devant les tribunaux, ils sont mis en prison, ils sont flagellés. Mais l'apôtre Paul proteste, parce qu'il est citoyen romain, il dit « Vous n'auriez pas dû me flageller en public ». Les autorités s'en rendent compte, elles sont confuses, elles disent qu'il faut vite les libérer clandestinement, mais Paul dit « Il n'en est pas question, c'est une bavure, venez vous excuser ». Enfin, je le dis avec mes mots d'aujourd'hui. Hein. Mais c'est extrême, c'est d'une actualité magnifique. On y a tout, là, le rapport aux autorités, à la police, au pouvoir, aux magistrats, etc. À partir d'un acte qui était spirituel. Quand l'apôtre fait ça, il ne fait pas de la politique. Il guérit une femme, point final. Donc, voilà, on peut dire que faire de la foi une affaire privée, comme on l'entend dire parfois, y compris dans les églises, mais aussi chez certains anticléricaux, cela revient à priver le monde de la bonne nouvelle.
En quelque sorte, dans cette perspective biblique, le chrétien est appelé à assumer une double citoyenneté. Donc, ce que vous avez dit, hein, cette théologie des deux règnes, bien interprétée cette fois. Et vous écriviez il y a quelque temps un article « De l'intime au public ». Et en effet, si devenir croyant, c'est être rencontré par Dieu, cette rencontre qui est un don de Dieu, appelle le croyant au témoignage pour qu'il se fasse l'écho de ce don reçu. Il faut souligner ce nécessaire passage de l'intime au public. Et certes, la rencontre dont il est question dans la foi est intérieure, mais le même mouvement qui ouvre le croyant à Dieu l'ouvre aux autres et au monde. La foi est toujours un événement personnel, mais jamais solitaire. Hein, c'est vous qui écriviez ça. Elle articule la dimension individuelle et la dimension communautaire, le fort intérieur et l'espace politique. L'être humain se découvre en vérité lorsqu'il ne vit pas replié sur lui-même, mais devant Dieu et avec les autres. Donc, la dimension publique est essentielle pour un chrétien et pour une spiritualité d'un croyant chrétien.
Oui, c'est ce que vous avez à juste titre appelé la double citoyenneté.
Oui.
Le chrétien est citoyen de ce monde qu'il est appelé à construire.
Alors cette double citoyenneté, eh bien, nous en parlerons dans une prochaine émission. Michel Bertrand, grand merci. Nous retrouverons ensemble donc pour cette émission sur Radio Alliance Plus dans notre série Théologie en liberté sur le lien entre religion et politique. Vous pouvez nous retrouver sur radioallianceplus.fr et nous réécouter en podcast. Et sinon, nous vous disons à bientôt.
À bientôt.